Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, c'est Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Marion Robin. Bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil.
Marion, vous êtes présente à Die pour une séance de dédicace qui se déroulera à la librairie Mosaïque vendredi 3 novembre. À quelle heure précisément ?
À 17h30.
Vous êtes là pour nous présenter un livre. Vous êtes psychiatre spécialisé pour les adolescents.
Oui.
Et vous êtes là aussi pour présenter cet ouvrage.
Alors c'est « Ados désemparés cherchent société vivante ».
J'ai oublié de le noter et voilà.
Aux éditions d'Odile Jacob.
Et donc ce livre avant tout s'adresse à qui ?
Alors, ce livre s'adresse à un public assez large. J'ai vraiment essayé de faire cet exercice d'ouvrir une réflexion sur ma pratique professionnelle en tant que médecin d'adolescents et de pouvoir rendre accessible à tous le type de questions qui peuvent se poser quand on est soignant, c'est-à-dire quand on est à l'interface entre des adolescents qui sont en souffrance et hospitalisés dans des moments de crise particulière, à l'interface entre ces adolescents-là et le monde qui les entoure, et comment nous, on est dans cette interface en train de gérer un certain nombre de paradoxes sur nos valeurs, sur nos pratiques, et comment ces adolescents-là viennent nous questionner sur ces paradoxes. Donc voilà un petit peu ma volonté, c'était de partager, de me positionner en tant que témoin de cette pratique-là pour la partager avec des personnes qui ne sont pas du tout forcément des professionnels, qui peuvent être aussi bien des adultes, des jeunes, des parents. Voilà, parce que j'ai essayé d'ouvrir ça sur une réflexion plus globale et d'être systémique, c'est-à-dire de voir le monde de façon systémique autour de ces adolescents-là.
Cet ouvrage, pour vous, est-il une nécessité par rapport à votre expérience de pouvoir présenter et même développer ce dont pourquoi vous œuvrez au niveau des adolescents?
Oui, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est de poursuivre la réflexion avec d'autres, parce que nous, entre professionnels, on a nos repères, on a nos schémas, et je trouve que d'ouvrir le dialogue avec d'autres champs de connaissances aussi, ça m'intéresse parce que je pense qu'on se nourrit de différentes positions, de différents points de vue, que ce soit avec les parents, les sociologues, les historiens, et donc voilà, c'est vraiment dans un intérêt d'avancer cette réflexion, je pense, collective devant laquelle on est aujourd'hui avec cette problématique des adolescents. Et notamment, je parle plus dans ce livre des adolescents qui ont des problématiques suicidaires. Mais c'est-à-dire que je pars de leur situation comme un point de départ, je ne m'y limite pas du tout, mais je pars de... Qu'est-ce que la problématique de la vie et de la mort à cet âge-là, et quels sont les ingrédients qui vont faire qu'un adolescent va entrer dans des enjeux de vie ou de mort, alors que c'est pas, voilà, on n'y bascule pas du jour au lendemain. On voit tous les ingrédients qui peuvent se mettre en place, et j'ai essayé de déconstruire tous ces ingrédients et d'ouvrir une réflexion sur un petit peu chacun de ces ingrédients.
Vous parlez de suicide au niveau des adolescents. Quelle est la phase la plus critique pour un adolescent ? C'est au sortir de l'enfance ou alors c'est à l'entrée du monde adulte ?
Alors je reviens sur la notion de crise justement. La phase critique suppose la notion d'une crise d'adolescence. C'est vrai que dans les 40 dernières années, la question de la crise d'adolescence s'est beaucoup développée. On en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que j'aime bien revenir sur la notion de crise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une crise au fond ? Et c'est une question que posent beaucoup de parents aujourd'hui, à quel point la crise d'adolescence est un phénomène obligatoire ou un passage facultatif en fonction des adolescents. Et notamment beaucoup de parents anticipe ce que peut être une crise d'adolescence. Je donnais un peu cette image-là sur l'idée que quand les enfants de 2-3 ans s'opposent, par exemple, commencent à dire non, parce que c'est, c'est la phase de développement qui veut cette affirmation-là de l'enfant de 2-3 ans. Aujourd'hui, beaucoup de parents se mettent à dire « Oh là là, qu'est-ce que ça va être à l'adolescence si déjà aujourd'hui ça se passe comme ça ?» Et à anticiper un petit peu sur le mode de l'impuissance, ce qui va être un combat nécessaire, un passage obligé de l'adolescence. Alors j'aime bien revenir là-dessus et re-questionner ça en revenant sur la définition d'une crise, c'est-à-dire l'enfant, quand il passe cette transition, il y a une transition réelle vers l'âge adulte qui est biologique d'abord, hormonale, et qui va induire tout un tas de changements psychologiques et de demandes sociales autour, d'une pression sociale qui va être différente aussi. On attend de lui autre chose. Donc il va avoir cet adolescent, il va être aux prises avec des forces contraires en lui, notamment l'exemple le plus évident, c'est cette problématique d'autonomie-dépendance. C'est-à-dire que pour devenir quelqu'un de plus autonome, il va aller revisiter ce qu'est sa dépendance aux autres et notamment aux parents. C'est-à-dire qu'il va aller s'assurer que les liens sont bien solides pour pouvoir s'éloigner plus sereinement. Donc là, il y a un paradoxe qu'il a à gérer. Donc c'est des forces contraires qui sont en lui et qui vont effectivement opérer une sorte de crise de laquelle il va, en fonction de ce qu'il a construit avant et des bases qu'il a déjà, de laquelle il va pouvoir se dégager pour se construire en tant qu'adulte. Après, ça c'est une crise interne, on va dire, biologique, psychologique, mais c'est pas forcément, et je tiens à bien redifférencier, c'est pas forcément explosif, externalisé, visible. Il y a beaucoup d'adolescents qui grandissent de façon continue, sans qu'il y ait de chaos général, et que voilà, et on les voit de l'extérieur, ils vont plutôt bien. C'est une période où il y a plus de doutes, où il y a plus d'hésitations peut-être, mais c'est pas forcément la crise explosive comportementale qu'on va pouvoir maintenant anticiper, peut-être même en diabolisant parfois ce que ça va être avant même que ça puisse apparaître. Donc voilà, j'ai essayé de re-questionner le fait que l'adolescence n'est pas toujours loin de là, une crise explosive. Il y a plein d'adolescents qui vont très bien. La majeure partie des adolescents vont très bien. Et c'est vrai que comme aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la crise d'adolescence, je pense que c'est important aussi que des psychiatres puissent dire que la plupart des adolescents vont bien, mais qu'il y a des conditions aussi pour que cette phase de la vie, on leur donne les moyens d'aller bien. Et notamment, c'est vrai que les psychiatres parlent beaucoup des adolescents, et c'est important qu'on puisse parler, par exemple, des conduites à risque, des dangers qu'il peut y avoir à l'adolescence. Et ça me paraît tout aussi important que d'autres champs sociaux s'emparent de l'image des adolescents pour que leur image, notamment médiatique, par exemple, ne se réduise pas qu'à la question médicale, puisque nous, on parle d'un certain aspect de l'adolescence. Mais si on va sur Google aujourd'hui et qu'on tape adolescence, on tombe beaucoup sur les violences urbaines ou bien la psychiatrie et l'adolescence. Or, l'adolescence est loin de se réduire à ça. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont, une image extrêmement positive aussi. Il y a plein de choses qu'ils font et qui sont, je pense, qui pourraient être encore plus valorisées.
On peut estimer les proportions d'adolescents qui passent des périodes très difficiles par rapport à l'ensemble.
Alors, on va dire que les chiffres sont pas évidents à obtenir, justement, parce que ça dépend où on met le curseur de ce qu'est la souffrance. Est-ce que c'est à partir du moment où il y a des doutes, est-ce que c'est à partir du moment où il y a à l'extrême une tentative de suicide, des conduites, des prises de toxiques? Donc, en fonction de toutes ces fenêtres-là, on va évaluer différentes choses. Et c'est difficile de trouver des sources un petit peu fiables. Même, par exemple, sur quelque chose qui est aussi simple que faire, aussi simple, entre guillemets, au niveau épidémiologique, quels sont le nombre d'adolescents qui ont fait ou pas une tentative de suicide. On estime qu'il y aurait 8%, par exemple, des jeunes filles adolescentes aujourd'hui qui seraient concernées par des tentatives de suicide. Mais il y a des sources divergentes parce que, notamment, par exemple, selon les pays, il y a une grande hétérogénéité de déclarations. Le suicide aussi, l'aspect tabou du suicide fait qu'il y a des suicides qui vont être complètement sous-évalués, qui vont passer pour une mort accidentelle, un accident de voiture ou quoi. Enfin, c'est extrêmement difficile, en fait, d'évaluer la réalité de ce phénomène. Les éléments qu'on sait, c'est que aujourd'hui, sur les les tentatives de suicide à l'adolescence, on est dans un phénomène qui n'est pas contrôlé médicalement. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un phénomène qui est très actif. Et ça, il vient interroger sur le fait que les jeunes n'arrivent pas à appeler à l'aide. Et on arrive là, et nous, on se met à considérer que le fait, de, par exemple, d'ingérer des médicaments pour un adolescent qui va se retrouver aux urgences est un appel à l'aide. Moi, je considère que non, c'en est pas un. C'est un échec d'un appel à l'aide qui n'a pas eu lieu avant, parce que c'était pas possible pour l'adolescent de mettre en mots sa souffrance et surtout de pouvoir solliciter quelqu'un, qui que ce soit. C'est-à-dire d'être certain que s'il va envoyer un message, ce message va être reçu et on va l'aider à trouver des solutions. Donc là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir en amont parce que ce phénomène-là, aujourd'hui, effectivement, n'est pas contrôlé, dans le sens où les tentatives de suicide sont fréquentes, elles ne sont pas en diminution. Apparemment, le nombre de suicides aboutis serait relativement en diminution chez les adultes et les adolescents de façon globale. Mais c'est des éléments sociologiques, médicaux, intriqués qui sont très compliqués à comprendre. Voilà, en tout cas, chez les adolescents, effectivement, c'est le fait de se mettre en danger peut être un mode de régulation du rapport aux autres, du rapport aux adultes, de l'appel aux adultes qui, à mon avis, est vraiment à questionner. Notamment savoir comment on contient leur peur, leur colère et leur tristesse. Comment nous, les adultes, on exerce en tant que parents, en tant qu'institution, en tant qu'adultes dans la société, comment on exerce une contenance autour d'eux. C'est-à-dire la contenance, c'est la façon dont on va les entourer et à la fois les entourer, délimiter leur champ de questionnement et les inviter à aller vers le monde adulte, tout en étant en mesure de leur indiquer les directions qui vont les amener à maturer, à se responsabiliser, leur donner des occasions de se responsabiliser nombreuses et de manière extrêmement graduée, et aussi la façon dont on leur traduit le monde autour pour qu'ils puissent avoir des réponses. Et tout ce travail-là de contenance, j'ai essayé vraiment de le développer dans cet ouvrage « Ados désemparés cherchent société vivante », c'est-à-dire comment la contenance a lieu à tous les niveaux. Donc j'ai développé l'ouvrage en trois niveaux, qui sont le niveau global, c'est-à-dire la contenance du grand groupe qui inclut l'adolescent. Ensuite, il y a la contenance au niveau local. C'est le petit groupe autour de l'adolescent, c'est par exemple la famille, les relations, je sais pas, aux éducateurs, aux pères, enfin aux autres jeunes, ou alors donc la famille au sens élargi, les oncles et tantes, les professeurs. Donc ça va être la contenance au sens global. Et puis il y a la contenance individuelle, c'est-à-dire la façon dont un adolescent peut se construire en construisant ses propres limites lui-même, c'est-à-dire par exemple, savoir dire non à quelque chose, savoir connaître son identité, donc connaître ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et pouvoir mettre les frontières, lui apprendre et l'aider à ce qu'il établisse les frontières autour de lui qui peuvent être source d'échanges souples avec le monde extérieur. Voilà, donc j'ai pensé ces trois niveaux comme trois poupées russes qui s'emboîtent les unes les autres et qui sont là pour à la fois protéger, mais aider à construire la plus petite poupée qui est celle de l'adolescent en croissance.
Je voulais savoir, dans le titre « Ados désemparés cherchent société vivante », est-ce que vous estimez actuellement que la société n'est pas si vivante ?
Ben, c'est effectivement un point de départ du livre, hein, c'est-à-dire que il part d'une suite ininterrompue de catastrophes présentées à un journal, en l'occurrence c'était en 2012. Il part de ce constat que pendant tout un temps, c'est peut-être déjà un tout petit peu moins vrai aujourd'hui, mais ce serait intéressant de l'analyser, je ne sais pas ce qu'il en est, mais d'analyser pour ça l'évolution médiatique. Il part de ce constat de l'enchaînement des informations sur la mort, qui vont balancer comme ça la mort de manière successive comme ça, et puis on passe d'une information à une autre, et puis on n'a pas le temps de la traiter, parce que le rythme, l'évolution des choses fait que on consomme de l'information, et on n'a pas toujours le temps de l'analyser, de la partager émotionnellement, et que dans ces informations-là qui succèdent, Beaucoup en révèlent, beaucoup de citoyens en ressentent un sentiment d'impuissance, quoi, à faire quelque chose par rapport à ça. Alors que d'un côté, d'ailleurs, si on se penche sur cette question-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, dans les catastrophes, on va parler des exceptions qui autrefois étaient la norme, en fait, à d'autres époques, et qu'aujourd'hui, on va parler d'un certain type d'événements de catastrophes, que ce soit le nombre de conflits dans le monde ou quoi. Enfin, il y a plein de choses à analyser sur cette évolution-là. Ça, c'est pas mon champ, je suis pas spécialiste là-dedans, mais en tout cas, je suis partie, moi, de ce sentiment d'impuissance-là, en me disant qu'il pouvait peut-être déteindre sur les relations parentales et jouer aussi dans un... Parce que je perçois auprès des parents ce sentiment d'impuissance dans l'éducation de leur enfant, c'est-à-dire je ne vais pas y arriver. Mais au fond, ça ne vient même pas forcément de comment ça se passe avec l'enfant, mais d'un vécu plus global, social, de « j'ai pas d'empreinte sur le monde autour de moi, j'ai pas de capacité à agir, à notre niveau, on ne peut rien faire », disent beaucoup de gens. Donc, du coup, ça m'a intéressé de mettre ça en lien avec les paradoxes qu'on a à gérer en permanence quand on répond à des adolescents qui nous disent parfois « Oui, mais vous, les adultes, vous produisez des mensonges sur le monde. Vous nous dites qu'il y a la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est pas vrai. Regardez le vrai monde. C'est pas ça. » Et parfois, des adolescents très mélancoliques, qui ont une dépression vraiment sévère, peuvent se connecter de manière très aiguë à ces paradoxes du monde qu'on leur présente. Et donc, c'est vrai que j'ai développé plusieurs exemples de paradoxes dans lesquels on est pris sur, bah, au fond, à quel point cette société est vivante ou pas. Par exemple, je suis partie de cette question du risque zéro, qui aujourd'hui est une notion très, très présente dans la tête des gens. Et parce que sur le plan, par exemple, industriel, sur le plan... Enfin, sur différents champs, le risque zéro, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va structurer beaucoup de raisonnement. Et nous, on voit le paradoxe, parce que d'un côté, sur le plan, effectivement, industriel, c'est à la fois important de pouvoir sécuriser les modes de consommation et par rapport à la préservation de la santé et du vivant, que ce soit l'environnement ou même l'humain. Mais par contre, sur la gestion psychologique, sur la façon dont l'humain fonctionne, nous, on est pris dans un paradoxe qui est qu'un adolescent qui a des conduites suicidaires, quand il va être hospitalisé, par exemple, les parents vont nous dire « Bon, bah, il est en sécurité puisqu'il est chez vous, vous allez contrôler les choses et puis il n'y a plus aucun risque dans ce cas-là. » Et nous, tout notre travail, c'est que l'adolescent qui, par exemple, est dans ce raisonnement-là aussi, va se dire « Bah, tout merde, c'est eux qui vont me sécuriser. Moi, je vais pas bien, je suis pris dans ma souffrance, c'est eux qui vont s'occuper de sécuriser les choses. » Mais sauf que si on est dans cette illusion que nous, on va avoir le contrôle comme ça sur tout et sur les comportements de l'adolescent, ça peut risquer de le pousser encore plus loin dans le fait de vouloir justement se mettre en danger. Et il y a un moment où on est obligé de mettre une butée en disant, une fois qu'on a sécurisé son espace au maximum, il y a quand même un moment où on est obligé de lui dire, là, il va falloir qu'on vous redonne une responsabilisation parce que c'est de vous que ça va repartir. Parce que nous, on peut aller toujours plus loin d'en contrôler, on peut mettre des caméras, mais voilà, ça pousse encore plus loin le besoin de retrouver une liberté de soi, une liberté minimum. Donc nous, on est obligé de sortir du risque, du raisonnement du risque zéro où on destituerait celui qui est en souffrance de toute capacité à gérer ses propres comportements et de lui restituer le plus vite possible, dès que son état le permet, pour qu'il reprenne une responsabilité de lui. Et pour ça, donc, on est obligé de lâcher cette idée du risque zéro et on ne peut pas travailler avec que cette notion du risque zéro. En tout cas, appliquée à l'humain, ce n'est pas possible d'être de manière rigide dans cette idée-là. Donc voilà, j'ai ouvert une réflexion sur ça. Le risque zéro, d'accord, mais jusqu'où on va comme ça? Et comment on peut essayer de graduer nos raisonnements maintenant entre ce qui est un risque gradué, évalué? C'est-à-dire qu'on va tenter, pas les yeux fermés, on s'appuie sur l'expérience, sur le quotidien, sur comment l'état de santé d'un jeune avance. Et puis on va réouvrir, on va lui permettre de reprendre un petit peu de liberté, mais c'est jamais sans risque, mais simplement on essaye de mesurer le risque. Pour lâcher la notion du risque zéro, il faut qu'on apprenne à mesurer les risques. Donc ça m'a amené à réfléchir de manière plus globale sur quelles sont les responsabilités qu'on donne aux adolescents aujourd'hui, même avant la majorité, comment ils apprennent à être responsables d'eux-mêmes progressivement. Et là, indépendant de la question des enjeux de vie ou de mort, suicidaires, etc., indépendamment de la souffrance psychiatrique, aujourd'hui, en France, comment est-ce qu'on peut aider les adolescents à être responsables d'eux-mêmes progressivement, c'est-à-dire même avant 18 ans, pouvoir gérer un budget, pouvoir gérer un projet, pouvoir devenir acteurs du monde autour d'eux, à leur échelle, en participant à la vie de leur communauté, c'est-à-dire de leur ville, de leur réseau local. Donc ça, c'était un exemple. Il y a aussi, dans la question des paradoxes, par exemple, sur le monde et le caractère vivant ou non du monde, ce mode relationnel aux autres. Les adolescents, quand ils arrivent à l'hôpital, ils vont parfois, régulièrement, nous dire, voilà, vous les médecins, vous observez comment on va, comment on va pas, et puis vous dites à nos parents ce qu'on doit faire après. Et puis voilà, c'est comme ça que les solutions finiront peut-être par arriver. Et puis en nous disant ça, je pense qu'ils sont pas trop dupes, mais c'est quand même une croyance qui est, voilà, on observe et puis on donne des recommandations. Et nous, là encore, on voit bien que ça marcherait pas du tout, mais quand bien même on voudrait avoir un grand savoir médical et prescrire des choses comme ça toutes faites, ça marcherait pas du tout. Et donc on passe notre temps à leur expliquer que non, il va falloir qu'on se mette tous au même niveau et qu'on fasse ensemble, parce que sinon ça va pas fonctionner. Et que nous, on n'est pas observateurs détachés, on est en interaction permanente. Et c'est l'interaction justement qui va nous permettre d'avancer et de comprendre ce qu'on est en train de faire et donc ce qui se passe pour eux au moment où ça va pas. Donc on lâche ce phénomène d'observation qui aujourd'hui est extrêmement banal dans la société, hein, que ce soit via les réseaux sociaux ou quoi. Observer sans être engagé, c'est un processus très courant. Et nous, on est obligés de lâcher ça parce que ça marche pas en psychologie, dans ce type de souffrance. Ça marche pas du tout. Donc on s'y met ensemble et puis on essaie de former un groupe avec le jeune, avec les parents, avec les soignants pour comprendre ce qui circule au niveau émotionnel, quelle est la place de chacun dans ce groupe-là et comment on va trouver ensemble des solutions. Parce que si c'est juste des adultes qui donnent à des adolescents des solutions, ils s'en emparent pas, les adolescents. Ils n'accepteraient pas passivement comme ça qu'on leur donne des recommandations et puis ils s'y plieraient pas. Et donc voilà, là par exemple, on est aussi obligé de lâcher ce qui pour nous était pourtant quelque chose de banal dans le quotidien, observer de loin. Et on est obligé de lâcher ça. Et donc voilà, là je questionne aussi, finalement ces paradoxes-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et d'élargir du coup cette réflexion.
Je réfléchissais à ce que vous disiez et l'idée m'est venue de savoir si, en transposant un petit peu la chose, je voulais savoir si le monde adulte actuel ne serait pas dans une espèce de d'illusion d'adolescent par rapport à l'ère numérique aujourd'hui où, la responsabilisation n'est plus de mise et je dirais même que ça serait plutôt de l'infantilisation.
En tout cas, oui, c'est-à-dire la question derrière, c'est à quel point les adultes aujourd'hui sont encore adolescents, à quel point ils sont devenus adultes, quel monde adulte avons-nous construit ? C'est une vraie question. D'autant plus que on sait assez facilement quand on commence l'adolescence, c'est au moment de la puberté, c'est-à-dire au moment du changement hormonal, biologique. C'est assez facile finalement d'identifier le début de l'adolescence. Identifier la fin de l'adolescence, c'est beaucoup plus compliqué parce que le début, c'est vraiment une phase de changement assez rapide, mais la fin, c'est une phase beaucoup plus de transition progressive. Donc aujourd'hui, on se dit, c'est quoi le signe de la fin de l'adolescence ? Pendant longtemps, ça a été dans l'histoire, selon les sociétés, c'est le fait que le jeune adulte prenne la place au milieu des autres, c'est-à-dire exerce la fonction d'adulte, donc par exemple travaille. Mais l'autonomisation financière, par exemple, elle met beaucoup plus de temps aujourd'hui à se faire. Ça peut pas être comme ça a pu l'être avant, juste le mariage, parce que les mariages sont beaucoup moins fréquents. Ça peut pas être juste le fait de partir de chez les parents, parce que c'est moins le cas aussi. Enfin, c'est pas moins le cas, mais ça se fait de manière plus différée dans le temps, si les études sont plus longues, par exemple. Enfin, donc finalement, les repères sont beaucoup plus compliqués. Et puis, une question, c'est est-ce que c'est quand on devient parent, finalement, qu'on sort de l'adolescence ? Mais si c'est juste le fait d'avoir des enfants qui nous fait sortir de l'adolescence, ça peut être très rapide et un processus qui se fait pas en 9 mois, une sortie d'adolescence, pour le coup, c'est plus long que ça. Donc on est bien embêté aujourd'hui pour décrire ce que c'est que la fin d'une adolescence. Et puis bah, d'où les concepts qui ont pu être développés d'adolescence, c'est-à-dire ces adultes qui sont des adolescents éternels et puis qui s'identifient à leurs enfants, à leurs ados, qui jouent aux jeux vidéo avec eux, enfin... Dans une société aussi basée sur le plaisir personnel, etc., ça devient plus difficile aussi de mettre des frontières, peut-être. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a des repères à pouvoir re-réfléchir, je pense, de ce côté-là. Qu'est-ce qui différencie adolescents et adultes ? Et en tout cas, j'y vois, moi en ce moment... quelque chose de très particulier dans ce qui est en train de s'opérer. Alors... De ce que nous dit, en tout cas, de ce que nous dit la psychologie du développement ce qui différencie un adolescent et un adulte, c'est notamment que l'adolescent se met progressivement, avec ses changements hormonaux, avec ses changements biologiques, se met progressivement à percevoir le monde de manière différente. Déjà, il prend une taille importante en grandissant beaucoup, en prenant, je ne sais pas, 8-10 cm en une année. Déjà, on change de vision sur le monde. Et ce changement perceptif sur le monde, il va produire chez eux le fait que les figures qui avant étaient au-dessus de lui en taille deviennent horizontales par rapport à lui. Et ça produit un changement de perspective intéressant parce que ça donne un recul et puis ça permet à l'enfant devenu adolescent de voir que finalement ce qui mettait un petit peu peut-être sur un piédestal à certains moments devient une figure plus complexe que ça. Et donc les parents en premier, mais pas seulement. Donc c'est là qu'il va voir un petit peu plus la complexité de ce qu'est un être humain, de ce qu'est un parent, de ce qu'est, voilà, que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément au-dessus de lui, qui peut être ni au-dessus ni en dessous, mais qui est une figure complexe et qui va finir, quand il sera en fin d'adolescence, de manière horizontale à lui, c'est-à-dire ni au-dessus ni en dessous, mais juste différent de lui. Et... Donc ce changement perceptif, c'est un changement qui inclut un autre rapport au monde et une autre complexité, un autre rapport à la complexité du monde. Donc devenir adulte, c'est accéder à une pensée qui est plus complexe et c'est aussi, cognitivement, accéder à la capacité à se représenter que on peut penser les choses de manière complètement différemment de lui. C'est-à-dire que la réalité devient juste... indépossible. Sa réalité est indépossible. Et là, à partir du moment où l'adolescent a opéré ce changement-là, il peut accéder au fait que le monde, c'est pas une pour appréhender le monde, il n'y a pas juste une idée et une perception, mais que ça va être en moyenne une dizaine de points de vue différents qui vont donner une vision du monde nuancée. Il va aussi, dans les changements cognitifs, accéder au fait que le monde n'est pas noir ou blanc, dans un raisonnement qui peut être un peu manichéen pendant l'adolescence, mais qui, au passage à l'âge adulte, va connaître tous les intermédiaires de gris entre le noir et blanc. Donc, il n'y a pas mise en danger ou pas mise en danger. Justement, il y a des degrés de risque qu'il va devoir apprendre pour pouvoir devenir adulte et évaluer où est le danger réel et où est un risque très modéré, par exemple. Donc tous ces changements-là nous aident à penser qu'est-ce que c'est au fond d'être adulte aujourd'hui et comment nous on gère la question de ces risques-là, la question de percevoir le monde de manière très complexe et pas en noir ou blanc de manière manichéenne. Et dans ce changement-là, en tout cas ce qui m'a intéressée dans le livre, c'était de voir ce qui est en train d'émerger, ce que je crois être un changement sociétal profond qui se produit ces dernières années, celui d'une transition citoyenne, enfin qu'on appelle de plein de façons différentes, mais dans laquelle un certain nombre d'individus... se met à agir le monde de manière différente aujourd'hui et à s'investir différemment, que ce soit au niveau local, dans sa ville, dans sa cité, dans sa scolarité, dans son travail, de manière à mettre en cohérence la façon dont il est, ce qu'il pense, ce qu'il fait et ce qu'il dit de ce qu'il fait. Et voilà, sur ces personnes qui perçoivent que le monde est en train de changer et qui veulent avoir une part active mais faire leur part au niveau individuel en ayant conscience que c'est la complémentarité des actions qui va agir et donc ils agissent sur eux-mêmes mais ils agissent sur le monde à partir d'eux-mêmes. Et dans cette j'ai évoqué dans ce livre l'exemple de cette transition citoyenne comme étant en ce moment un changement de rapport au monde et qui vient intégrer quels sont ces changements de passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est-à-dire à partir du moment où on est acteur de son monde et on redevient acteur de son monde. Et ça, il me semble être un des exemples de la sortie d'un sentiment d'impuissance et de passivité vis-à-vis d'un monde sur lequel, effectivement, éventuellement parce qu'il est mondialisé, globalisé, il n'y aurait plus aucune prise. Et en fait, on s'aperçoit que là, ces dernières années, finalement, les citoyens peuvent se connecter à ceux d'autres pays et agir de manière concertée. C'est-à-dire que c'est plus seulement au niveau financier, mais c'est aussi au niveau action individuelle qu'il peut y avoir un état d'esprit commun sur préserver... chacun va mettre des valeurs là où ça lui paraît le plus important. Pour certains, ça va être la gestion du plastique sur la planète, des déchets de manière plus générale. Pour d'autres, ça va être les modes d'alimentation. Pour d'autres encore, ça va être la préservation de telles espèces animales. Chacun va trouver un mode d'action. Voilà, donc j'ai mis ça en lien avec justement cette question de la fin d'adolescence comme un exemple d'un changement là en ce moment qui est en train d'opérer. Et qui, à mon sens, possède une certaine cohérence avec ce que représente une sortie d'adolescence.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur, avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Quelle est la place de l'amour dans ces problématiques ?
Oui, bien sûr, c'est une place centrale pour les adolescents, pour les adultes, bien sûr, mais On ne grandit pas sans passion. Et donc, quand on s'occupe d'adolescents qui sont dans des problématiques de destruction, donc suicidaire, destruction de soi, ou même parfois destruction d'autrui, pour entraîner tout ce qui ne fonctionne plus, soit sa famille, on part du principe qu'effectivement, ils sont dans la destruction parce qu'ils n'ont pas pu s'investir dans la passion, dans l'amour de quelque chose, dans l'amour des gens autour d'eux, parce qu'ils sont trop en souffrance dans ce lien. Donc nous, on part de ce qui a été attaqué de cet amour-là. Alors, c'est une question très complexe, et en psychiatrie, on va, par exemple, ce lien d'amour, quand il est malade et quand il est entravé, on va souvent travailler sur des questions d'histoire, revenir à l'histoire, aux origines, à l'histoire des jeunes, même leur grossesse, même leur conception. On va revenir très en arrière sur ce lien d'amour. C'est un des éléments importants du travail en psychologie, en psychiatrie, et on travaille beaucoup sur le transgénérationnel aussi. C'est-à-dire que quand l'amour est malade, qu'est-ce qui a fait qu'il ne peut pas s'exprimer et se libérer ? Quelles sont les peurs qui vont empêcher que cet amour s'exprime à certains moments ? Ça n'empêche pas qu'il s'exprime à d'autres moments. Et donc voilà, là il y a un travail, un aspect du travail, on va dire, un des 10 aspects du travail pour cette question du suicide chez l'adolescent. Ça va être ce lien d'amour et ce lien d'amour de façon transgénérationnelle. Ensuite, il y a aussi le travail autour de ça, de l'attachement. C'est-à-dire dans le lien, la confiance, comment elle se construit avec le temps. Je parlais tout à l'heure du fait que le passage à l'acte suicidaire pouvait être un échec de la possibilité d'appeler à l'aide. Je parle dans le livre à plusieurs reprises de la question de l'attachement comme étant un élément central à travailler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adolescents qui arrivent en disant... moi, quand je leur demande qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en détresse, à qui vous faites appel ? Et ils disent à personne, souvent. Et puis quand on refait un petit peu comme ça leur histoire, on s'aperçoit qu'effectivement, leur politique, c'est qu'il faut se débrouiller tout seul dans la vie. Et ça, on passe beaucoup de temps en psychiatrie à déconstruire cette croyance-là et à s'appuyer sur le lien aux autres et à remettre cette évidence-là qui est qu'on est tous interdépendants, mais une évidence qu'on a presque perdue au fond et qui revient en ce moment puisqu'on le voit bien dans un discours social qui une forme de renouveau du lien d'interdépendance et un besoin de collectif important. Mais c'est vrai qu'avec les adolescents, on revient à cette évidence qui est que ben non, on ne peut pas se débrouiller seul dans la vie. Même les adultes ne se débrouillent pas seuls. L'autonomie, ce n'est pas se débrouiller seul. L'autonomie, c'est savoir distinguer quand est-ce qu'on peut se débrouiller à certains moments avec ses propres ressources et quand est-ce que dans d'autres moments, on a besoin des ressources des autres ou de ressources collectives, nous et les autres, pour pouvoir avancer vis-à-vis d'un problème, par exemple, ou d'un événement particulier. Donc voilà, ça c'est un troisième exemple des paradoxes sur la société vivante ou non, un paradoxe sur lequel on est, c'est que parfois un discours général peut aussi sous-tendre ce type de raisonnement sur, voilà, dans la vie il faut se débrouiller seul, il faut avancer quoi qu'il en coûte, donc alors c'est amplifié, c'est à la loupe chez ces adolescents-là qui ont un lien qui va être mis en tension, en difficulté à un moment de leur vie. Mais voilà, ça c'est un exemple où on en revient aux bases, c'est-à-dire le lien, l'interdépendance, sur quoi repose mon lien à autrui et comment je peux redévelopper une confiance en autrui et une confiance en moi pour pouvoir retrouver une souplesse dans cette relation d'interdépendance.
Dans le titre de votre ouvrage, vous utilisez le terme « désemparé ». Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce mot ?
Dans « désemparé », j'ai souhaité intégrer plusieurs choses. Pour moi, dans désemparé, il y a la perte de la fonction de rempart. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, le livre porte sur la question de la contenance. Donc c'est aussi un petit peu les remparts qu'on va mettre autour de soi, des autres. Les remparts, mais avec une image peut-être plus souple. Je préfère l'image de la membrane cytoplasmique, la membrane de la cellule vivante, animal ou végétal, cette membrane qui assure l'identité de la cellule et qui l'enveloppe, mais qui en même temps possède plein de canaux qui vont être des zones d'échange entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Donc c'est à la fois un enveloppement et en même temps une limite et en même temps une source d'échange très important entre l'intérieur et l'extérieur. Donc dans la fonction de désemparer, j'essaye à la fois de parler de la perte de cette fonction-là. Donc dans les poupées russes, qu'est-ce qui va permettre de redonner une fonction de rempart autour de l'adolescent, et notamment dans la fonction de parent. Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir ou pas à un moment à mettre des filtres sur ses propres angoisses, sur celles qu'on porte du monde, et comment on va réussir à, malgré tout, entre adultes, à réfléchir suffisamment sur le monde pour en tirer un discours collectif et cohérent qui permet de prémâcher les choses pour les enfants et les adolescents et de leur donner quelque chose qui a déjà été filtré et pas qu'on puisse leur donner tel quel parce qu'ils ne peuvent pas intégrer le degré d'information ou d'angoisse qui peut circuler vis-à-vis de ces informations ou d'autres émotions complexes. Dans Désemparer, il y a cette idée-là. Dans Désemparer, il y a aussi l'idée que... À un moment, je développe l'idée que... Nos adolescents, comme je disais tout à l'heure, peuvent avoir une image qui va être soit du côté des violences urbaines, soit du côté de la psychiatrisation, c'est-à-dire leur fragilité. Et je questionne un petit peu le fait que si d'autres champs ne compensent pas le discours médical, par exemple, les concernant, ils vont être exposés au fait qu'on parle de leur vulnérabilité, fragilité, alors que si on les compare physiquement aux adultes, ils commencent à être plus forts physiquement que les adultes, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. On parle de leur fragilité, alors que c'est un moment où ils peuvent avoir des passions qui sont tellement incroyables et qui les poussent tellement en avant aussi. C'est un âge où voilà, il y a une créativité et un recul sur le monde qui sera jamais tel quel 20 ans plus tard. Ou en tout cas qui peuvent ensuite mettre en œuvre et nourrir, enfin ce ne sera pas terminé, mais c'est un moment d'ouverture, de fenêtre, d'ouverture sur ces capacités-là qu'ils ont. Et au moment où on en parle comme des êtres vulnérables, on n'en parle pas comme des êtres qui peuvent avoir une réelle fonction dans leur cité, dans leur démocratie, dans leur, notamment une fonction politique par exemple. C'est vrai que si on compare à la vision qu'on avait de l'adolescence dans les années 70-80, on est très très loin, voire à l'opposé de leur rôle politique, leur rôle dans la cité. Voilà, donc je viens questionner ça. Rempart, enfin désemparer, c'est tout autant ce qu'on leur attribue dans ce qu'ils pourraient avoir perdu que ce qu'on peut-être leur a enlevé. Et voilà, c'est pour réfléchir à ce qu'il y a autour d'eux, en eux. Voilà, donc c'est vraiment cette interface-là entre eux et le monde.
Alors, vous pratiquez votre profession à l'Institut Mutualiste de Montsouris. Les personnes que vous avez en visite sont issues de tous les milieux sociaux.
Alors, il peut y avoir, on va dire, les jeunes qui sont hospitalisés peuvent être de différents milieux sociaux. Il y a une rencontre importante. Étant donné que c'est dans Paris, intramuros, et que cet hôpital est sectorisé sur certains secteurs de Paris, on va dire qu'on va recevoir plutôt des jeunes issus de milieux sociaux plutôt favorisés. Cela dit, il y a quand même une diversité qui reste vraiment importante. Et on voit la richesse de cette diversité-là, puisque les jeunes qui se rencontrent pendant une hospitalisation vont justement sortir de leur milieu social et aller à la découverte d'autres milieux sociaux, un petit peu comme ce que certains adultes racontent avoir connu, par exemple, lors de leur expérience de l'armée sur un terrain qui est tout autre. Mais voilà, le fait d'avoir rencontré des personnes issues de champs complètement différents d'eux, nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe au quotidien comme étant une source d'échange de richesse qui est de plus en plus compliquée à imaginer aujourd'hui socialement. C'est-à-dire que alors, si la psychiatrie est le seul endroit où ça existe, ça peut devenir un problème. Je ne crois pas que ce soit le seul. Mais en tout cas, on voit bien que ce mélange-là, il est source de découverte et source d'une richesse importante. Ensuite, les problématiques auxquelles les jeunes sont confrontés vont d'un côté varier selon les niveaux et les milieux socio-professionnels des parents. En même temps, voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est quand même confronté un petit peu, quels que soient les milieux à un certain type de problématiques dans les liens parents-enfants et notamment aussi dans les liens à la scolarité. Au projet professionnel, les jeunes, on a beaucoup à gérer dans cette question suicidaire de le rapport à la pression scolaire. Quand même, je crois que c'est un problème auquel il faut qu'on se confronte vraiment aujourd'hui pour avancer. Il y a beaucoup de jeunes qui font de la scolarité un enjeu de vie ou de mort. Comment est-ce qu'on peut les aider à pouvoir les dégager de ça, c'est-à-dire comment, et c'est vrai que les parents disent bien, on se rend bien compte qu'on veut pas leur mettre cette pression-là, et d'ailleurs c'est pas forcément les parents, enfin c'est les parents disent eux-mêmes, c'est vrai que je souhaite pas moi mettre une pression active là-dessus, mais comment moi je peux enlever la pression globale qui porte sur leurs épaules, puisque avec tant de chômage, avec comment est-ce qu'on fait nous pour les protéger de cette pression scolaire? Là, je crois qu'il y a une vraie question collective à pouvoir faire émerger et à pouvoir... je crois vraiment que là, il y a un besoin pour les adolescents qu'on puisse les dégager de ça progressivement pour qu'ils puissent se projeter dans un avenir qui soit d'accord, qu'on ne connaît pas, qu'ils ne connaissent pas et qu'on ne connaît pas, mais qui puisse être autre chose qu'une représentation justement manichéenne qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire soit j'ai le diplôme qu'on m'a demandé d'avoir, soit je vais être dans l'échec, je vais être dans la rue, je vais être exclu de la société parce que je serai une source de honte, parce que je n'aurais pas eu la mission que finalement qu'on me demande de faire pour réussir, quoi. Donc de les aider à sortir d'un raisonnement à la fois qui peut être en noir ou en blanc, et en même temps d'un système qu'ils ont intégré comme étant très hiérarchisé, et comment les aider à récupérer un fonctionnement plus horizontalisé des rapports sociaux, une représentation plus horizontalisée de ce qu'ils peuvent devenir, de ce qu'ils peuvent être dans la société.
Qu'est-ce qui vous a amené à exercer dans la psychiatrie ?
Alors juste pour revenir sur le sentiment d'être démuni, c'est vrai qu'il faut quand même préciser le fait que les parents élèvent beaucoup leurs enfants seuls aujourd'hui, et encore quand ils ne se séparent pas, parce que le nombre de séparations, de divorces rajoute au sentiment de solitude, surtout à l'adolescence. Mais voilà, il y a un proverbe qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et c'est vrai que c'est le maillage étroit entre les parents, et les professeurs, qui fait qu'il y a un moment où on dégage des solutions ensemble, là où un parent est limité dans le fait qu'il ne peut pas tout seul... avoir d'informations suffisamment fiables déjà sur le fait que son enfant aille bien ou pas, le fait de voir si un adolescent va bien ou pas, c'est tous les regards croisés latéraux du groupe qui vont le produire, mais c'est pas le parent tout seul vis-à-vis de son adolescent, même s'il y a un dialogue entre eux qui est établi, c'est pas un regard complémentaire. Donc c'est vrai que ce sentiment d'être démuni, je pense que c'est vraiment le collectif qui peut le résoudre, le compenser. Après, sur ma vocation de psychiatre, c'est vrai que pendant les études de médecine, j'avais envie de faire de la neurologie ou de la psychiatrie ou de la médecine générale. Ma démarche à moi a été celle de cette passion pour comprendre le fonctionnement humain. J'ai toujours eu cette envie de comprendre le fonctionnement humain. Donc pour ça, la neurologie et la psychiatrie m'ont particulièrement intéressée. Et puis je crois que j'ai gardé de l'adolescence un attachement à cette période de la vie qui m'a donné envie de poursuivre plutôt sur cette voie-là.
Pour vous, c'est un univers illimité ?
Bah oui, c'est très riche. Hein, les rencontres, enfin c'est le plaisir des rencontres, des personnalités de ces adolescents-là, de leurs parents. C'est illimité, la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes qui chacune enrichissent nos expériences, nos pratiques, nos connaissances.
Et puis pour terminer, donc demain, vendredi, vous serez pour une séance de signature, mais est-ce qu'il y aura peut-être aussi un petit entretien avec l'assistance présente ?
Ce serait avec grand plaisir. En tout cas, je crois que c'est prévu plutôt comme ça. Je pense que je présenterai en quelques mots les grandes lignes des raisonnements et de développement de cet ouvrage. Et puis j'aimerais bien que ça donne lieu à un dialogue demain, bien sûr.
Eh bien, Marion Robin, merci d'être venue nous présenter donc en partie votre ouvrage concernant ados désemparés cherchent société vivante, et dont la séance de dédicace aura lieu demain, vendredi, à 17h30 à la librairie Mosaïque à Die. Bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Est-ce qu'on peut voir des choses sur vous, sur Internet?
J'ai pas de blog ou de site particulièrement. Non, mais peut-être qu'un jour, je le ferai.
Un jour. Allez, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Hey, the bird.